Vous êtes avec SBS French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'OMS qui approuve l'utilisation du vaccin AstraZeneca à travers la planète. Les suites du procès en destitution pour Donald Trump, l'ex-président américain. Et en France, l'exécutif qui explore des changements dans la lutte contre les violences sexuelles. Mais on débute ce journal avec le coronavirus en Australie. L'Australie du Sud qui a fermé sa frontière aux personnes de Melbourne après que l'épidémie ait pris place dans les hôtels de quarantaine à Melbourne soit passée à 8 cas. Un brumisateur utilisé par un voyageur de retour donc, dans un hôtel Holiday Inn à l'aéroport de Melbourne semble avoir aidé à disperser le virus dans l'atmosphère. Le médecin d'urgence Stephen Parnis a déclaré que les hôpitaux avaient cessé d'utiliser ces brumisateurs en raison du risque de Covid-19. Il a dit sur Channel 9 qu'il avait été choqué quand il avait appris que quelqu'un avait utilisé dans un des hôtels de quarantaine. On l'écoute.
We all took a deep breath and thought, my goodness, how could this possibly have happened? But I think what it shows is that even though this has gotten through the screening processes, just one example has led to an outbreak. And it shows how incessant the risks are in hotel quarantine.
Voilà, donc le médecin d'urgence dans le Victoria, Stephen Parnis. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué l'approbation donc, de l'Organisation mondiale de la santé du vaccin AstraZeneca pour toute personne âgée de plus de 18 ans, je vous le disais en titre. Tout ça s'ensuit que certains pays remettent en question l'efficacité du vaccin, comme l'Afrique du Sud, le vaccin qui sera finalement fabriqué et mis à la disposition en Australie. On écoute Boris Johnson.
These vaccines are safe and effective, and it was good to see the World Health Organization today confirm its support for the Oxford AstraZeneca vaccine for use in everyone over the age of 18 and obviously everyone over 65, and also supporting the 12-week interval between the two doses. Indeed, they say the longer interval provides greater protection.
Voilà donc le Premier ministre Boris Johnson. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union donc européenne était en retard pour autoriser les vaccins du Covid-19. Ils avaient pris beaucoup de retard. Elle a été critiquée pour la lenteur du déploiement du vaccin sur le vieux continent. Le blanc était derrière des pays comme le Royaume-Uni. Mais Mme von der Leyen affirme que malgré ces retards, les commandes des vaccins collectivement au nom de tous les États membres étaient la bonne chose à faire. On l'écoute.
Ich mag mir gar nicht ausmalen.
I cannot even imagine what would have happened if a handful of big players, big member states, had rushed to it, had everybody else had been left empty-handed. What would that have meant for our internal market and for the unity of Europe? In economic terms, it would have been nonsense, and it would have been the end of our community.
Voilà donc les propos traduits de la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Un scientifique australien impliqué dans l'enquête sur les origines du Covid-19 dit qu'il pense que le virus a bien commencé en Chine et qu'il avait circulé dans la communauté à partir de la mi-novembre. Le professeur Dominic Dwyer, microbiologiste et expert en maladies infectieuses, il fait partie de New South Wales Health Pathology, il a déclaré à Nine News qu'il était convaincu que ce virus était donc originaire de Chine et que les preuves d'une origine en dehors de la Chine était très limité. Le professeur Dwyer était le seul Australien dans une équipe de 14 personnes travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé. On l'écoute.
I would hope that a conclusion and a definitive source for all of this will be made. Many of these outbreaks actually take years to sort out. So part of the WHO work was advising what sort of studies need to be done to try and sort this out. Over the next year or so. I mean, remember with SARS, it took well over a year before the bat virus was identified. I would expect it's going to be similar here, but there's clearly a lot of work that needs to be done.
13h05, direction la France maintenant. L'exécutif qui réfléchit à des modifications des lois qui ont pour but de protéger les citoyens contre les violences sexuelles. Le ministre de la Justice a d'ailleurs dévoilé 3 nouvelles pistes. Elles portent sur le seuil d'âge, la prescription et l'inceste. Laura Martel.
Première proposition, la définition d'un nouveau crime. tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Instaurer ainsi un seuil d'âge permettra, souligne le garde des Sceaux, d'évacuer la problématique question du consentement qui est un frein, dit-il, aux condamnations. En effet, dans l'état actuel du droit, pour qu'un viol ou une agression sexuelle soit condamné, l'absence de consentement de la victime doit être démontrée au travers des notions de violence, menace, contrainte ou surprise. Avec ce nouveau crime, une seule condition, il devra être établi que l'agresseur avait connaissance de l'âge de la victime, indique Éric Dupond-Moretti, qui précise qu'une exception sera également prévue pour éviter de criminaliser une relation entre deux adolescents dont l'un deviendrait majeur au travers d'un écart d'âge fixé à 5 ans. Deuxième proposition, l'instauration d'une prescription dite glissante pour que toutes les victimes d'un même auteur puissent bénéficier d'un procès. Concrètement, si pour une victime A, le crime n'est pas prescrit, alors qu'il l'est pour d'autres victimes du même auteur, l'absence de prescription de la victime A s'étendra à toutes les autres. Enfin, pour renforcer la lutte contre l'inceste, la réflexion est toujours en cours, indique le ministre, puisqu'il n'y a pas de consensus entre les associations, certaines plaidant pour la création d'une infraction spécifique, quand d'autres estiment que l'on doit continuer à parler de viol.
Et c'était Laura Martel pour RFI. Aux États-Unis, deuxième jour du procès de destitution de Donald Trump. Depuis hier, les élus se penchent sur le fond de l'histoire. L'ancien président est accusé d'avoir incité à l'insurrection au Capitole quelques jours avant la passation de pouvoir. Vous vous en souvenez très certainement. Le bilan, je vous le rappelle, était quand même de 5 morts. Depuis Washington, Anne Corpet, les procédures ont déjà commencé.
Oui, ils disposent en tout de 16 heures pour déployer leurs arguments, mais les audiences sont limitées à 8 heures par jour. Alors depuis la mi-journée, les élus se succèdent pour démontrer que pendant des mois, Donald Trump a mobilisé ses troupes autour d'une idée, qu'une défaite ne pourrait être que le produit de fraude et qu'il faudrait se battre pour conserver le pouvoir. C'est une sorte de longue chronique d'un désastre annoncé. Les élus exposent les tweets, les extraits de discours de l'ancien président et décrivent ses actions de plus en plus désespérées pour rester en fonction. Provocations, pressions, menaces, attaques et constants mensonges au sujet du résultat des élections. La violence n'était pas seulement prévisible, il l'a délibérément provoquée, lance un procureur qui rappelle, avant le 6 janvier, plusieurs élus avaient reçu des menaces de mort à cause de sa rhétorique. Une autre élue évoque le soutien tacite de Donald Trump aux milices d'extrême droite et aux groupes suprémaciste blanc, elle montre un message diffusé sur un réseau extrémiste. Le Capitole est notre objectif. Ces groupes avaient des armes, des cartes. Ils disaient ouvertement que Donald Trump allait les aider, assure-t-elle. Aucune image inédite encore pour l'instant, mais un à un, les procureurs décrivent cette dérive inexorable qui, selon eux, ne pouvait aboutir qu'à une explosion de violence, des violences qu'ils qualifient de délibérées, orchestrées et prémédité par Donald Trump.
Et c'était Anne Corpet pour RFI à Washington. Les États-Unis encore, ils ont annoncé une série de sanctions contre l'armée en Birmanie en réponse au coup d'État donc, qui a conduit à l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et d'autres hauts responsables politiques. Le président américain Joe Biden a déclaré que son gouvernement empêchera les généraux militaires d'avoir accès à 1 milliard de dollars de fonds gouvernementaux birmans détenus aux États-Unis. On l'écoute.
I've approved a new executive order for enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. We're freezing U.S. assets that benefit the Burmese government while maintaining our support for healthcare, civil society groups, and other areas that benefit the people of Burma directly.
Voilà donc pour le président américain Joe Biden. Direction la Chine maintenant. Le pays le plus peuplé au monde affiche une natalité en nette baisse. Cette année, le nombre de naissances a chuté de 15% depuis Pékin. Stéphane Lagarde.
Ce ne sont encore que des données partielles qui s'ajoutent aux statistiques relevées dans différentes provinces chinoises l'an passé, mais ces 10 millions de bébés nés en 2020, comparés aux 11 790 000 naissances de 2019, devraient accentuer le vieillissement d'une pyramide des âges chinoise qui certes n'a pas encore la tête d'un champignon comme les voisins sud-coréens et japonais, mais est de plus en plus marquée par le poids des cheveux gris. Ces 20 dernières années, le nombre des personnes âgées a quasi doublé, explique Liang Xunxiao du Forum sur le vieillissement de la société à Pékin. Depuis 1999, les seniors représentaient 7% de la population, mais ce chiffre devrait passer à 14% dans les deux ans. C'est la vitesse de cette augmentation qui inquiète, poursuit l'un des fondateurs de ce think tank, qui cherche des solutions à une Chine qui vieillit. La chute des naissances en 2020 est probablement marquée par la crise sanitaire et le confinement. Elle est plus généralement le signe aussi d'une volonté d'émancipation des Chinoises qui ne sont plus pressées d'épouser leurs beaux-parents, comme le veut la tradition des quatre générations sous le même toit.
Et c'était Stéphane Lagarde pour RFI, 13h10. Allez, le fait est assez rare pour qu'on puisse le mentionner. Les agriculteurs allemands sont dans la rue. Ils protestent contre de nouvelles lois mises en vigueur dans leur pays qui ont pour but de protéger les insectes et donc par conséquent de diminuer l'utilisation des pesticides. Reportage Pascal Thibault.
Retour vers le passé. Pour la Fédération des agriculteurs allemands, le projet de loi du gouvernement nuit à la compétitivité de cette branche sans améliorer la protection des insectes. Depuis deux semaines, ils manifestent à bord de leur tracteur, scandant « sans agriculteurs, pas d'avenir ». Le projet de loi a mis du temps à être conclu, tant les désaccords étaient nombreux entre la ministre chrétienne-démocrate de l'agriculture et son homologue SPD en charge de l'environnement. Il a fallu qu'Angela Merkel tape du poing sur la table pour que le dossier progresse ces derniers jours. Le texte veut restreindre l'utilisation des pesticides dans les campagnes pour enrayer la disparition des insectes. Le glyphosate, soupçonné d'être cancérigène, serait interdit fin 2023. Le gouvernement a aussi mis fin à des pratiques controversées comme la castration à vif des porcelets ou le broyage des poussins mâles. La réforme de la politique agricole commune européenne, qui prévoit un plus grand respect de l'environnement, va à l'avenir renforcer un peu plus la colère des paysans allemands.
13h12, minutes, coup d'œil météo à travers le pays en cette fin de journal. À Perth, il fera 26 degrés, Adélaïde 38, Melbourne 34, Hobart 26, Canberra 30, Sydney 27, Newcastle 27, Brisbane 29, Cairns 31 et Darwin 31 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'OMS qui donc approuve l'utilisation du vaccin AstraZeneca. On l'a vu, les suites du procès en destitution de Donald Trump. Et en France, l'exécutif qui explore des changements dans la lutte contre les violences sexuelles. 13h13, courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.